Ben bonjour à tous. Ben c'est assez émouvant pour moi de parler de tout ça, parce qu'il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Et puis j'ai retrouvé un peu Georges Séville ce matin, je me sentais un petit peu en famille avec eux. On a fait pas mal de chemin ensemble. Alors moi, je suis d'origine algérienne et espagnole. J'ai grandi dans une famille où on nous enseignait l'islam. Mais bon, ce n'était pas un islam comme on le connaît actuellement, avec juste cette violence. Mon papa était était musulman, mais très soft, on va dire. Il était pratiquant, comme à la limite, un bon catholique dans notre culture bien française. Il faisait juste le minimum. Voilà, le ramadan de temps en temps, il ne fallait pas manger de porc, des choses comme ça. Puis nous enseigner par rapport à tout ça. Moi, l'évangile, je ne connaissais pas du tout, vraiment rien. Et c'est assez surprenant, maintenant que je suis au Seigneur, de voir qu'il y a des gens qui ne connaissent rien du tout de l'Évangile, même en vivant dans un monde soi-disant chrétien. Donc voilà, là où je suis né. Et puis, je crois que rapidement, Dieu m'a interpellé. Mon papa aimait bien aller au cinéma, et puis vers les 5-6 ans, je suis allé au cinéma avec lui. On était voir les 10 commandements, un vieux film, un classique du film biblique. Et dans ce film, on voit un moment l'acteur, donc Moïse, qui parle avec le buisson ardent. Hein, vous connaissez peut-être un peu le film, ou vous connaissez un peu la Bible. Et puis j'ai mon père, mais j'étais tout petit, alors j'imagine le minot, 4-5 ans, je dis « c'est quoi ?» Mon père, il fait « c'est Dieu ». Et je crois que ça a démarré là. C'était l'impact. Et je me suis dit « c'est Dieu ». Puis je restais vraiment une grande question, comme ça. Et puis bon, je commençais à grandir. Rapidement, on s'est rendu compte que j'étais un garçon très violent. Vers 5-6 ans, mes parents sont passés au tribunal à cause de moi, parce que j'avais défiguré un garçon qui avait une quinzaine d'années, parce qu'il se moquait de mon papa. Donc moi, ça m'avait vexé. Et puis j'ai pris une boîte à conserve et puis j'ai défiguré. Donc déjà, il y avait des choses comme ça qui étaient là. Et bon, je continue à grandir. Avec mon père, c'était très, très, très conflictuel. Donc j'habitais le sud de la France. Je suis né dans le sud, on est venu habiter dans le nord de la France. Mon papa était mineur de fond. Donc les mines fermées dans le sud, on est arrivé dans le Douaisis. Hein, vous connaissez peut-être la fosse des Lois, enfin, la Loarde, c'est assez connu dans la région. Mon papa a travaillé là, moi on n'habitait pas loin. Puis bon, bah, j'ai grandi comme beaucoup de jeunes de l'époque. Puis je faisais partie de la bande du quartier, parce que j'étais costaud, j'étais fort, j'avais pas peur. Alors tout doucement, on a commencé à voler, à faire des telles choses comme ça. Et puis, c'était la période... Bon, je suis un vieux, hein. C'était la période des hippies. Et cette période-là, moi, ça m'a attiré. On parlait d'amour, de paix, de liberté. Et puis moi, la famille, c'était difficile. À partir de 15-16 ans, avec mes parents, c'était très, très dur. Je faisais des fugues. Je me battais énormément. À chaque fois que je tapais sur quelqu'un, les parents venaient à la maison parce que j'avais abîmé la personne gravement. J'étais vraiment quelqu'un d'hyper violent. Pour vous dire que dans la cour d'école, en 6e, 5e, quand je me battais avec quelqu'un, j'avais qu'une idée en tête, c'était tuer la personne. Vous imaginez un petit peu. Et donc, j'étais... Donc, il fallait qu'on me sépare et voilà. Et donc, avec mes parents, c'était très conflictuel. Avec l'école, c'était conflictuel. Même si on disait que c'était un garçon intelligent, il ira loin s'il voulait bien travailler. Mais bon, finalement, il ne se passait rien. Et puis, progressivement, je suis éloigné du contexte familial, avec les fugues et tout ça. Et puis, avec ces mouvements hippies, on parlait de trouver Dieu. Malgré que l'éducation musulmane que j'avais eue était là. Mais ça, honnêtement, ça ne me satisfaisait pas. Ça me passait vraiment au-dessus. J'étais vraiment indifférent. Mon père m'avait appris des choses musulmanes, réciter les prières musulmanes et des choses comme ça, mais Dieu était loin. Dieu était loin et je pense que peut-être je voulais, comme ce Moïse, qui avait vu le buisson ardent, avoir cette rencontre avec Dieu. Je pense que c'était ça qui me motivait. Et on me disait, avec la drogue, tu peux trouver Dieu. Il y avait des livres qui avaient été écrits. J'ai rencontré Dieu. C'était Michel Lancelot, parce qu'il avait pris du LSD. Et puis bon, moi j'étais dans cette mouvance, un peu. J'ai un ami qui était prêtre, qui m'avait dépanné un petit peu. J'ai fumé mes premières pipes de kiff avec lui. Donc vous imaginez, un prêtre m'a appris à fumer ces choses-là. Donc voilà. Et puis voilà. Tout doucement, Je me suis enfoncé dans ce milieu. Donc je vivais dans la... J'ai fini par vivre dans la rue, vivre dehors. Pour se nourrir, il fallait voler, il fallait truander, il fallait trafiquer, voyager beaucoup en stop. Mais je faisais tout ce que je voulais. Franchement, j'étais, entre guillemets, libre. J'avais plus de papiers. J'étais vraiment un style anarchiste. J'étais mes papiers, je passais les frontières en fraude. Donc voilà, c'était le style de vie dans lequel j'étais. Mais tout le long du chemin, comme tout à l'heure on est dans ce témoignage, Dieu a un œil sur nous. Dieu nous appelle, Dieu nous cherche. Et progressivement, régulièrement, je rencontrais des gens qui me parlaient de Jésus. Alors, les premiers temps, c'était un mouvement qui s'appelle les Enfants de Dieu. C'était une secte qui était très, très en vogue à l'époque. Ils étaient à Paris. J'avais été les voir, d'ailleurs, avec mes copains entraînés sur Paris. Bon, j'étais à Paris, Amsterdam, Lille. Enfin, ouais, on voyageait un peu partout. Et puis, j'avais été chez eux. J'avais même témoigné dans la rue avec eux, selon leur système. Et un soir, ces gens-là, il y avait une espèce de conférence. Ils parlaient. Et puis, ils ont demandé de prier. Et moi, Je priais à ma manière et je me suis dit « Dieu n'est pas là ». C'est fou, hein, je ne connaissais rien du tout de l'Évangile, rien du tout. Je me suis dit « Dieu n'est pas là ». Et on était à trois. Et mes deux copains disent « Nous, on reste là ici, c'est le bon plan, on se nourrit à l'œil, il y a des filles, on fait tout, c'est nickel, on va se poser là ». Moi, je me suis dit « Non, c'est pas ça, cher, voilà, ce ne serait pas honnête non plus ». Donc, je continue mon bout de chemin. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré une fille qui est devenue la maman de mon premier garçon. On a commencé à habiter ensemble. Donc elle a fait des fugues pour venir me rejoindre. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes avec sa famille, ses parents, la police. Enfin, je ne vous dis pas les situations complexes comme pas deux. Et puis j'entraînais dans la drogue et j'étais très violent. Donc c'était une femme battue, voilà, à ma honte. Hein, voilà. C'est une femme battue, elle était enceinte, je la frappais, je la battais, je faisais des crises à cause de la drogue. Pour vous dire que quand je suis arrivé au Seigneur, je faisais 48 kilos, donc je n'étais pas très épais. Et entre-temps, j'avais cette secte qui m'avait parlé de Jésus, je me disais, c'est pas ça. Je rencontrais des chrétiens, donc j'avais traîné un peu sur l'île. Et à l'époque, il y avait la communauté de la réconciliation que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc c'était les débuts de cette communauté, donc à l'époque, il y avait un coffee bar, on appelait ça un coffee bar, c'était un lieu de rencontre pour les gens de la rue. On pouvait y aller en toute liberté, s'installer, boire un café, discuter. Puis bien sûr, on nous présentait l'Évangile. Moi, j'y allais assez régulièrement parce que bon, c'était des gens sympathiques au demeurant, n'est-ce pas? Ils m'accueillaient gentiment, on buvait du café. Et puis on parlait des choses de Dieu. Et moi, les choses de Dieu, ça m'intéressait. Je m'étais intéressé à l'hindouisme, j'avais été un peu traîné chez les enfants de Dieu un petit peu. J'avais été chez les Krishna aussi, donc vous savez, ces gens qui ont le crâne rasé avec une petite mèche, à l'époque ça se voyait beaucoup. J'avais été dans leur temple, vous voyez, donc il y avait quand même quelque chose qui était là. Mais la drogue faisait son effet tout doucement, tout doucement. Et je faisais des tas d'expériences mystiques, beaucoup d'expériences mystiques. J'avais même des amis qui... Parce que la drogue, ça nous ouvre une porte quand même à un domaine spirituel qui n'est pas celui de Dieu. Et donc j'ai rencontré des gens qui pratiquaient des choses occultes, et sans vouloir choquer spécialement ni faire du sensuel, faire de la sensation. Un jour je dormais dans une cave et j'étais vraiment pas bien, et j'ai entendu une voix qui m'a appelé, m'a dit viens vers moi. Et sincèrement, j'ai reconnu la voix de Satan. J'ai dit non, ce n'est pas toi que je veux, c'est Dieu que je cherche. Et cette voix a disparu. Donc je dis ça, c'est, voilà, tout simplement. Et donc, voilà, donc, quand j'étais avec cette dame, qui était la maman de mon premier garçon, donc elle a beaucoup souffert de mes violences, de mes crises. On trafiquait, on vendait, les gens venaient chez moi, on venait chez... Je m'appelle, mon vrai prénom c'est Ali, en fin de compte. On venait chez Ali parce que chez Ali on faisait la fête. Il y avait toujours du shit, il y avait du LSD, il y avait toujours ce qu'il fallait. Donc les gens venaient chez moi et c'était la fête, voilà. J'avais ma petite réputation dans la région de Douai. Alors on était à deux comme ça, hein, qui étaient un peu plus dans notre ville à côté à Niche. Et puis moi j'étais sur Douai, donc on avait nos deux petits, notre réputation. On avait nos petits disciples, n'est-ce pas, hein. J'initiais les gens à la drogue à partir de 13-14 ans. Je leur apprenais à fumer des joints et tout ça. C'est formidable, c'est bien. On ne se rend pas compte que... Quelqu'un qui se drogue, obligatoirement, il fait il fait des disciples, quoi. Donc, il essaie de reproduire son système. Sans penser à l'aspect financier, parce que certains le font pour l'aspect financier, mais parce qu'on se dit ça c'est bien, on le fait machinalement et on entraîne les gens avec nous. Et il suffit que les gens, chez eux, ne soient pas bien un temps, ils rencontrent le dealer ou le copain qui fume déjà, qui prend déjà des produits, et la jonction se fait là, et puis les gens sont embarqués dans un monde qui après devient l'horreur, parce que la dépendance est là. Et quand la dépendance vient, eh ben, il y a les crises de manque, il y a les violences. Quand je traînais sur l'île avec des copains, il y en a un, je ne sais pas ce qui est devenu, je sais qu'un, il est mort la semaine où je me tournais vraiment vers l'Évangile. Il prenait des amphétamines donc par injection, et il allait faire des casses, comme on disait, ou des SDAM, comme on disait aussi à l'époque. Donc ils allaient voler, attaquer les gens dans la rue, ou soit... faire des cambriolages quand ils étaient en manque, parce que là ils sentaient qu'ils avaient peur de rien, ils étaient très violents, très agressifs, et là ils sentaient qu'on pouvait y aller. Donc quand ils étaient en manque, ils allaient faire des coups durs comme ça, voilà, pour dire un peu l'état d'esprit dans lequel les gens évoluent, quoi. C'est inimaginable. Et puis bon, en entendant parler de l'Évangile, bien sûr je me posais des questions, et j'avais lu le Nouveau Testament. J'avais lu les évangiles, c'est la première fois que je les ai lisés. Avant, j'avais lu des bouquins mystiques, parce que tout ce qui était religieux m'intéressait. Alors, pour vous dire, c'était l'ambiance de l'époque. Aujourd'hui, bon, je pense que les toxicomanes vivent un peu... Ils vivent la drogue, mais sous un autre aspect. Je prenais du LSD, puis je lisais des bouquins de philosophie orientale, pour mieux comprendre. Je prenais du LSD, puis je lisais ces livres-là, pour mieux pénétrer la pensée philosophique de l'auteur. On est dans des systèmes un peu spéciaux. En lisant les évangiles, je suis tombé sur où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Franchement, j'ai lu ça, pour employer les termes d'aujourd'hui, ça m'a impacté. Hein, ça. Et j'ai dit « Mais il est gonflé, ce bonhomme. Il dit qu'il est la vérité. » J'ai dit « Mais ça va pas, ça. » Et après, en lisant un peu plus loin les évangiles, je suis tombé « Si vous cherchez, vous trouverez. » Et c'est des versets qui me sont restés, quoi, qui font partie de ma vie aujourd'hui. « Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous demandez. » Si vous frappez, on vous ouvrira. Si vous demandez, on vous donnera. » Alors moi, j'étais là, je dis, mais je ne vois pas, je demandais quelque chose à quelqu'un, il va m'envoyer balader. Je ne comprenais pas qu'en fait, c'était du côté de Dieu que je devais me tourner. Je pensais que c'était aller voir mes voisins et puis leur demander quelque chose. Pour moi, c'était, voilà, on est quand même sur une autre dimension. Et puis j'étais tellement orgueilleux aussi, avec mes connaissances, entre guillemets, philosophiques, religieuses, qu'il y a un ami de ma sœur qui était venu chez moi. Et puis ma compagne de l'époque, elle avait assisté à une soirée d'évangélisation avec ma sœur qui était intéressée par l'évangile. Et donc, ils avaient été amenés dans cette réunion. Puis ce monsieur, quand il avait ramené tout le monde, il commençait à essayer de me parler de l'évangile. Je dis, moi, tu sais, hein, Dieu, avec mon LSD, tout mon truc, j'ai dépassé de loin. Je suis loin de tout ça, moi, tu sais, je suis loin. Alors je m'imaginais être un... Voyez, un petit peu. L'orgueil, c'est terrible. On est aveugle, hein, franchement, on est vraiment aveuglé. Et puis bon, ça allait de plus en plus mal avec ma compagne. Moi, j'étais vraiment de plus en plus mal. Alors j'arrivais de temps en temps, elle faisait la vaisselle, je dis, ça y est, j'ai tout compris. Elle me dit, qu'est-ce que tu as compris ? J'ai tout compris. Je prenais du LSD, puis j'avais des grandes révélations. Voilà, ça se passait comme ça. Puis elle dit, oui, entre-temps, regarde, le gamin, il a froid, on a faim. T'as pas de boulot, on n'a rien, mais t'as tout compris quand même. Hein, voilà, la réalité, elle me rejoignait là. Puis je dis, oui, mais toi, tu comprends rien. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà. Et puis, on s'est retrouvés à Lille, dans la rue, avec un enfant. On dormait dehors. Mon fils, il avait 14 mois à peu près. Puis on traînait dans les rues, en plein hiver, c'était au mois de novembre, je crois. Ouais. Et on était, bon, il faisait froid, donc on était à la gare de Lille. Il y avait le buffet de la gare, on était là boire un café, puis on attendait l'heure de pouvoir après aller se coucher éventuellement, donc c'est-à-dire trouver une entrée de cinéma, trouver une entrée d'immeuble, parce que les entrées d'immeuble à l'époque n'étaient pas fermées, donc il y avait de la chaleur, on pouvait aller dormir là avec le petit, et on vivait comme ça. Et il y avait un monsieur, c'était un Africain, mais il rayonnait, il était au comptoir, et il parlait de l'Évangile, il parlait de Dieu. J'ai rien compris ce qu'il a dit, mais il parlait de Dieu avec les personnes qui étaient là au comptoir. Et puis les gens disent, oui, Dieu, c'est mon portefeuille. Je me souviendrai tout le temps, un monsieur dit ça. Moi, mon Dieu, c'est mon portefeuille. Alors, puis le monsieur, il continue de parler avec eux. Et puis il me regarde, et puis il me dit, on habite à... Notre église se trouve à Amiens. J'y suis jamais allé, franchement. Il me dit, mon église se trouve à Amiens, vous n'avez qu'à venir. Moi, je le regardais, et je dis à ma compagne, ben, je dis, écoute, faudra qu'on aille. Elle dit, mais attends, t'es pas bien, tu le connais pas. Je dis, ouais, mais si, 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 c'est bien, ça doit être bien. Pour moi, voilà, je crois que là, vraiment, le Seigneur m'a tiré un peu plus près, là. Hein. Et je voyais vraiment, c'est un homme de Dieu, pour moi, c'est, comme je le comprenais. Bon, avec l'islam et tout ça, on savait un peu ce que c'était, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, on comprenait ces choses-là. Donc, j'y suis jamais allé, pour finir. On a dormi dans la rue, tout ça, puis finalement, on a fini par se séparer. Donc, elle était dans un foyer, puis moi, je vivais dans la rue. Et mon fils était dans un autre foyer. Et à l'époque, donc, la communauté de la réconciliation, avec qui j'étais un peu en contact, je voyais régulièrement, parce que j'allais au coffee bar. Quoi, ça me parlait de le terme actuel, c'est réinsertion. On ne parlait pas d'insertion. On connaît des gens qui peuvent t'aider, tu pourrais t'aider parce qu'ils s'occupent des drogués. Je dis, oui, bon, pourquoi pas. Alors moi, je pensais à l'armée du salut. Je dis, moi, je ne vais pas me retrouver à l'armée du salut. C'est tout des clochards là-bas. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Vous voyez, bon, l'image qu'on peut avoir, cette vanité qu'on a. Et pourtant, je dormais dans la rue. Je volais pour me nourrir. Mais bon, j'étais quand même au-dessus des autres. Et je me rappelle une fois, j'avais pris du LSD. J'étais devant un café avec des copains. On était sous LSD, puis il y a des gens qui arrivaient, ils nous traitaient. Regardez les clochards là-bas. Et moi, royal, je fais, on n'est pas des clochards, on est des tripeurs, on prend du LSD. Et je partais dans des grands discours comme ça dans la rue, quoi, pour vous dire à quel point on est... Les gens me disent, il est fou celui-là. Et j'étais fou. J'étais vraiment fou. Et en plus, j'avais une hépatite C. Donc avec les amis de la communauté de la réconciliation, j'allais pas à l'église, hein, donc je les voyais seulement au coffee bar. Et beaucoup étaient travaillés dans les hôpitaux. Ils m'ont dit, écoute, tu devrais te faire soigner, tu ne peux pas rester comme ça. Je suis, ouais, d'accord, ok, mais bon, moi, ça allait comme ça. De toute façon, je mettais des lunettes noires, ça faisait un air méchant, et puis ça allait tout seul. On ne voyait pas que j'avais une hépatite, parce que j'avais le blanc des yeux tout jaune. Hein, donc voilà. Donc finalement, je me suis laissé convaincre, j'étais à l'hôpital. Ils m'avaient perdu de vue, et c'est là que je trouve ça formidable, parce qu'ils ont continué à me chercher. Ils m'ont perdu de vue, ils ne savaient pas où j'étais. Après, je sais, ils se sont renseignés auprès de mes copains où j'étais passé. Et on leur a dit, bah, il est à l'hôpital. Donc ils m'ont rejoint à l'hôpital. Et régulièrement, ils venaient me voir. Ils me parlaient toujours du Seigneur. Et puis ils me parlaient qu'aussi, à la sortie, je pouvais être accueilli. Mais les médecins, eux, voulaient que j'aille... dans un hôpital spécialisé. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça, quoi. Donc, ce que j'ai oublié de dire, surtout, avant ça, c'est qu'avant ça, j'avais fait vraiment une rencontre avec le Seigneur, quoi, ça qui est le plus important. Donc, quand j'étais dans la rue, notre fils était dans un foyer, ma femme, à l'époque, était dans un foyer. Et on s'était donné rendez-vous pour aller voir notre fils qui était hébergé ici. Vous connaissez peut-être ici à Lille, le foyer des Kermes. Il était hébergé là, notre garçon. Elle était dans un foyer à Mont-Saint-Barreul et moi dans la rue. Donc on s'est donné rendez-vous pour se retrouver et puis aller voir le petit. Et moi j'ai pris des amphétamines toute la nuit, donc je m'étais piqué. Alors, bon, à l'époque, j'étais pas joli, hein, j'avais les bras tout bleus, de marques de seringues, tous ces trucs-là. Et donc j'étais en... Je redevenais lucide et puis bon, je l'attendais, il était très tôt le matin, 5h, 6h du matin, puis j'attendais l'heure pour se retrouver. Et j'ai fait ma première vraie prière au Seigneur, parce qu'avant j'avais déjà prié, comme beaucoup, je pense, Dieu si tu existes, donne-moi ci, donne-moi ça, il se passe rien, bon t'existes pas, enfin voilà, des choses comme ça. Où oui, ça se passait, ah bah oui si je crois en Dieu, mais bon, c'était pas de la prière réelle. Et là j'ai vraiment crié à Dieu, parce que je me rendais compte que tout s'écroulait autour de moi. Et j'ai vu un panneau, une fois dans une rue, c'est marqué « Quand tout s'écroule, Dieu demeure ». Ça, ça m'avait... C'était, vous le connaissez peut-être, c'est Bernard de Lépine qui se baladait avec ce panneau dans les rues à Lille, qui faisait partie de la communauté à l'époque. Et ça m'avait marqué. Et je me suis attaché à cette phrase. Et j'ai crié à Dieu. J'étais assis sur une barrière. J'ai dit à Dieu, écoute, tu vois où j'en suis aujourd'hui. Je suis au bout du rouleau. Tu vois mon état. Je vais crever. J'ai prié vraiment comme ça. C'était pas une prière vraiment... évangélique ou catho, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas une prière, comme on l'entend dans nos églises. Je vais crever. Je dis, tu sais où j'en suis maintenant. Alors tu te révèles à moi aujourd'hui. J'ai donné un ultimatum à Dieu, tellement j'étais orgueilleux. Mais Dieu m'a pris au mot, heureusement. Tu te révèles à moi aujourd'hui, sinon tu me fous la paix et tu me laisses tranquille. Moi, je m'occupe plus de toi. Et advienne que pourra. Prière 5 minutes, mais réelle, sincère, vraiment. J'ai provoqué Dieu et je m'attendais à lui. J'ai dit, aujourd'hui, tu me fais un signe, tu te révèles à moi. Tu te révèles à moi. Sinon, c'est même pas la peine. Donc après, je retrouve ma compagne. On prend le bus, on arrive au... Et puis dans le bus, honnêtement, il y avait une vieille chanson d'époque, c'était « Fais-moi un signe », ça s'appelait. Gérard Palapra, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. « Fais-moi un signe », chanter. Et ça me revenait toujours dans la tête. Le Seigneur a des drôles de chemin, je vous dis. Et ça me revenait tout le temps en tête, « Fais-moi un signe ». Et j'étais dans ce bus et je regardais. Il est où le signe de Dieu? Et franchement, j'attendais, hein. J'attendais de pied ferme. Où est le signe de Dieu? Et je vois rien. Ma compagne, je la regarde, n'était pas trop en forme, on se disputait, on se chamaillait, parce que bon, les tensions étaient énormes. Et puis on arrive donc au foyer de la rue des Carmes, on attend notre tour pour voir notre fils, et puis on nous dit, bah, écoutez, il n'est pas là, il est hospitalisé. Et puis alors elle commence à pleurer, et puis je lui dis, c'est peut-être ça le signe de Dieu. Je dis, non, c'est pas ça. Donc on va à pied jusqu'à l'hôpital, au CHR, on va à pied à l'époque, hein. Et puis tout le long du chemin, elle pleurait vraiment, bon, elle m'insultait, enfin, c'était vraiment insupportable pour elle. Et moi, je chantais. Et en plus, au fur et à mesure qu'on arrivait à l'hôpital, je savais que j'étais dur. Je savais que j'étais quelqu'un de pas net, même avec des copains qui le font en rigolant. On disait, si on meurt, on va en enfer. Vous voyez, la conscience qu'on avait quand même. Hein, mais c'était gênant quand même d'aller en enfer, mais on le disait quand même en rigolant. Hein, faut dire ce qu'il est. Et je savais combien j'étais dur. Et là, de plus en plus, je me rendais compte qu'il y avait un vrai problème chez moi. Là. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. Là. Et on arrive à l'hôpital. Bon, on voit notre fils. Bon, merci Seigneur, à l'époque, il n'était pas grand malade. C'était juste un virus, donc il était isolé. Et bon, voilà. Et en regardant mon fils, je réalisais qui j'étais, ce que j'étais. Et là, je le dis comme avec mes mots. L'Esprit de Dieu m'est vraiment tombé dessus. Il s'est passé quelque chose. Dieu, l'Esprit de Dieu, je n'ai pas d'autre terme, franchement. L'Esprit de Dieu m'est tombé dessus et j'ai réalisé qu'il était là. Le Seigneur était là, présent. J'avais fait des expériences de drogue, de mystique, de tout ce qu'on veut, mais c'était lui. Il était là. Et comme j'aime bien le dire, mon cœur a reconnu son Créateur. Et ça, c'est merveilleux. Pourtant, j'en ai fait des expériences, je vous le dis. Hein. Et j'étais un champion dans ce domaine. Et je lui dis, ça y est, j'ai trouvé, il est là, c'est tout, maintenant notre vie va changer, c'est fini. Elle me dit, ah, enfin t'as compris. Hein, bon, ce coup-ci j'avais vraiment compris, pour de vrai, c'était plus les grandes révélations là. J'ai dit, notre vie va changer. Alors moi j'étais parti dans les grandes tirades, en fait comme Adam et Ève, tu vas voir, notre vie va changer, tout ça. Elle était très, très perplexe, je lui dis, oh, qu'est-ce qu'il a encore pris celui-là hein, ça. Mais pour moi c'était bon. Et je sentais, comment dire, vraiment, ça fondait au fond de moi-même. Ça fondait. Et Dieu m'aimait. C'était vraiment... Enfin, c'est merveilleux à vivre, quoi, je veux dire. Je connaissais l'amour de Dieu, je connaissais Dieu. Après, on est sorti de là. Je l'ai raccompagné. Et après, c'est la suite de ça que j'ai décidé de me faire soigner. Donc, j'étais à l'hôpital. Et la communauté, c'est là que la communauté de la réconciliation m'a parlé donc, du refuge Bethléem. Ils m'ont dit, écoute, on connaît un endroit, tout ça, où tu pourrais t'aider, maintenant que tu vas avancer. Et j'oublie toujours des trucs, je suis désolé. Je n'ai pas vraiment préparé, c'est ça aussi. Mais bon, avant ça, j'avais été hébergé par un ami qui est maintenant responsable à la Bège. Il était converti depuis 15 jours. Donc suite à ma rencontre avec Dieu, j'étais retourné dans le coffee bar, et là, ils ont vu qu'il y avait un changement sur mon visage. Et beaucoup m'ont dit, tu l'as rencontré? Je dis, oui, je l'ai rencontré. Donc on m'a demandé, tu veux prier? Je dis, oui, bien sûr, oui, je veux prier, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi, vraiment, ce coup-ci, vraiment prier. On a prié, on parlait, tu sais, est-ce que tu acceptes que Jésus est mort sur la croix pour toi? Honnêtement, je ne comprenais rien. J'ai dit oui, mais je ne comprenais pas. J'avais rencontré Dieu, et c'était tout. Je savais qu'il m'aimait, c'était tout. Après l'aspect, entre guillemets, théologique, je ne comprenais pas. Je l'avais rencontré, c'était ça l'important pour moi, à ce moment-là. Donc on a prié, et puis bon, ça avait, pour m'héberger, où tu vas dormir? Je dis, ben, je ne sais pas. Et il y a quelqu'un qui me dit, écoute, moi, je peux t'héberger ce soir. Donc je vais chez ce brave ami, Patrick qui s'appelle. Il m'héberge, on parle, on discute, ceci, cela, toute la soirée. Et puis il met un matelas par terre. Et puis bon, voilà, puis je me couche. Puis, et c'est là que j'ai une crise de manque. Et puis donc je commence à avoir des crampes, avoir mal et tout ça. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, je suis en manque. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, je dis, faudrait que je trouve quelque chose. Et à côté de mon livre, donc à côté de mon matelas, par terre, il y avait un Nouveau Testament. Et à l'époque, je n'étais pas très, très bon lettré, je ne savais pas beaucoup bien, pas très lire, on va dire, je n'avais pas fait beaucoup d'instructions. Donc je prenais le Nouveau Testament et je l'ouvrais, et je voyais des mots. Et c'est du domaine de l'expérience, là aussi, je veux dire, c'est ce que j'ai vécu moi, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Et je sentais comme des vagues de paix qui descendaient sur moi, qui venaient du ciel. Et à chaque fois que j'ouvrais ce Nouveau Testament, au fond de moi-même, il y avait un cri, c'est « aide-moi ».« Aide-moi », je ne le prononçais pas, c'était « aide-moi ». Et il y avait la paix qui descendait. Et je me suis endormi comme ça, paisiblement. Et maintenant, je me rends compte que le frère, je peux dire que c'est mon frère maintenant, il a dû paniquer parce qu'il était à côté de moi, il ne bougeait pas, et je sais qu'il était comme ça. À mon avis, il devait prier, parce qu'il dit, il va se passer quelque chose, il est en manque, ça va être grave. Et non, j'étais apaisé, je me suis endormi. Donc voilà, après, je me suis fait soigner. Et à la sortie de l'hôpital, on m'a proposé d'être hébergé à Bethléem. Donc on vient me chercher, on m'amène à Bethléem, j'arrive là, je tombe dans une maison de fous. J'en vois un qui arrive avec « Jésus t'aime, Dieu te cherche », c'est Frédéric Gaspard, beaucoup connaissent. Puis il arrive, « Ah, tu connais Jésus ». Qu'est-ce que c'est que ces malades ? Honnêtement, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, j'enregistre ma queue gentiment, tout ça, et puis ils se mettent autour d'une table, et puis commence à chanter un cantique, « Source de vie, source de paix », c'est un vieux cantique. Franchement, ça, et là j'étais très touché aussi. Ça m'a... Ouais, ça a été le démarrage pour moi d'une nouvelle vie, d'autre chose. Donc progressivement, là, à Bethléem, ce que j'ai appris, je ne vais pas faire l'éloge de Bethléem, hein, parce que bon, on connaît Jean-Régis, hein, il doit être parfait. Hein. Mais bon, je veux dire, l'accueil là, personnellement, ça m'a apporté énormément, parce que quand on vient de la rue comme ça, qu'il n'y a personne, on est rejeté. On est dans une situation de conflit en permanence avec tout le monde. Hein. La société, elle est dure, je ne vous apprends rien. Hein. Tout est dur. Dehors, c'est du béton. Il fait froid, c'est dur. Les copains, ils sont durs parce qu'ils sont copains, mais ils nous volent. Et puis, on les vole aussi. Hein. Je n'apprends rien à personne. Hein. Ça se passe comme ça, la rue. C'est hyper dur. C'est chacun pour soi. Hein. Bon, ceux qui ont vécu la rue savent ce que c'est un petit peu. Et là, il y a une famille qui m'accueille. Mon père m'avait rejeté. Hein, il m'avait mis à la porte, il ne voulait plus rien savoir de moi, parce que justement, j'avais des problèmes de drogue et tout, il ne voulait rien savoir de moi. Quand je passais de temps en temps voir mon père et ma mère me donnait un peu de sous et mon père, il ne voulait pas me voir, et ce n'était pas la peine. Donc. Et un verset que j'aime beaucoup dans les psaumes, c'est « Mes parents m'ont rejeté, mais l'Éternel m'a recueilli. Hein ». Bon, je paraphrase, on va dire. Et c'était des choses qui me parlaient énormément. Et là, il y avait une famille qui m'accueillait, elle ne me connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève. Ils prenaient des risques. Il faut dire ce qui est. Quand on héberge des gens comme moi, on prend des risques. Patrick, il en avait fait les frais. Il m'avait dépanné un petit peu, il en a fait les frais. Hein. J'avais volé de l'argent chez lui et tout ça. Non, mais bon, c'était pas... Vous n'avez pas peur de moi, ça va ? Non, mais voilà, quoi, je veux dire... Et puis, là, progressivement, j'ai commencé à découvrir autre chose de la vie. Je ne dis pas que je suis devenu parfait, ce n'est pas vrai. Mais ma vie, je crois que c'est Billy Graham qui dit ça, notre vie ne vient pas parfaite, mais elle change d'orientation. Et je crois que c'est le terme repentance qui correspond le mieux. On descend, puis après, on remonte en direction de Dieu. Et ma vie, elle a commencé à changer là. J'ai appris à connaître Dieu, à aimer sa parole, parce qu'à Bethléem, il n'y avait pas le choix. C'était la Bible ou rien. C'était comme ça. Tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de rien. Tu as le droit seulement de chercher du travail et de lire la Bible. Et les réunions sont obligatoires. C'était comme ça. Franchement, pour des gars comme moi, c'était dur. Mais ça nous a fait du bien, ça m'a structuré. Et tous les gens qui vivent la drogue, qui vivent ces milieux-là, on a besoin d'une structure. On a besoin d'un moment d'être recadré clairement. Et Bethléem, avec les moyens du bord qu'ils avaient à l'époque, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein. Donc avec un règlement assez strict. Une annonce de la parole, de l'évangile régulière. Tous les matins, on se levait, on prenait le petit déjeuner. Et puis on avait des petits calendriers, hein, Jean-Régis, et puis Jean-Régis lisait le calendrier, et puis il y avait un petit verset, et puis on lisait ce verset, on lisait le petit commentaire qu'il y avait avec, Et on commençait la journée comme ça, par la prière. Et puis chacun partait soit chercher du travail, ou ceux qui n'avaient pas de travail ou quoi, travailler un peu dans la maison d'accueil. Et tout doucement, j'ai commencé à me refaire une santé. Je ne travaillais pas, j'ai recommencé à travailler durement, parce qu'on voulait être agréable à Dieu. C'était ce qui se passait. Je me rappelle, avec plusieurs, on était là, on voulait honorer Dieu. Et je me rappelle, une fois, il y avait... je ne voulais pas aller travailler. Et Fred Gaspard, hein, il était dans la cuisine. Alors, c'était un peu le grand frère qui chapeautait les arrivants, hein, de mon époque. Et puis, il me dit, il faut que tu ailles travailler. Oh, je dis, moi, je ne vais pas. Hein, je ne veux pas aller aujourd'hui. Et lui, il est parti prier dans la cuisine. Et puis, après, il me voit arriver. Je dis, je vais aller travailler. Il m'a dit, j'ai prié pour que tu ailles travailler. Oui, un peu des petits miracles comme ça, voilà, la vie au quotidien, donc progressivement. Je me suis rebâti une santé, je faisais plus 48 kilos. On a prié pour moi, pour que le Seigneur intervienne dans ma santé. Le Seigneur est intervenu, donc je n'ai jamais eu de traitement lourd concernant l'hépatite C, parce que c'est ce que j'avais. Même à un moment, j'ai paniqué un peu quand j'étais beaucoup plus tard, j'avais des problèmes de santé. Et les médecins, j'ai fait des biopsies du foie, ils m'ont dit, mais... Ça va, oui, vous avez eu des traces d'hépatite, mais ça va, quoi. Vous n'avez, il n'y a pas de souci à se faire. Donc voilà, la grâce de Dieu s'est manifestée là. Donc que dire encore, hein? Tellement de choses. Donc voilà, là, progressivement, voilà, le Seigneur nous restaure. On peut venir de très 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 loin. Et je vous garantis que... Comme tout à l'heure dans le témoignage, ce qu'il a dit dans le témoignage, c'est un peu, voilà, c'est ce que vivent les gens, quoi. C'est du vécu, quoi. C'est les, voilà, il suffit de s'attacher à lui. Il nous restaure, il nous rebâtit. J'ai retrouvé mon père. Et j'ai vécu des choses formidables avec mon père. Je lui ai pardonné. Il était même étonné, parce que mon père était un homme très violent. Pour vous dire, quand j'étais petit, il me brûlait les jambes avec... J'étais un enfant battu, voilà, on peut dire ça aussi. Hein, le texte, c'est vraiment ça. J'ai retrouvé mon père. Quand, le premier temps, j'étais le voir, je me suis bien habillé, costume, cravate, parce que je dis ça va lui faire plaisir, il verra que j'ai changé. Vous voyez que, et je crois que quand on dit qu'on appartient au Seigneur, il doit y avoir un réel changement dans nos vies. Il n'y a pas d'effort à faire. On a envie d'être agréable à Dieu et on a envie de montrer ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui se passait pour moi. Donc j'étais voir mon père. Entre deux, j'ai vu mes anciens copains. Ils m'ont dit, t'as quelque chose, t'as des trucs pour nous. J'ai dit, j'ai mieux maintenant. Et j'ai sorti les évangiles. Alors certains m'ont dit, ouais, moi aussi j'ai trouvé Dieu. J'ai dit, mais c'est pas le même certainement. Voilà, bon, voilà. Et donc, avec mon père, on a reconstruit nos relations. Et entre deux, ma maman est décédée. Et ma mère me disait, tu sais, papa était élevé comme il a pu. J'ai dit, je sais, il m'a élevé avec les moyens du bord. J'ai dit, bon, c'est tout, il a fait ce qu'il a pu. Et j'ai dit, moi maintenant je suis un homme, je suis un adulte, je sais ce que c'est d'élever des enfants. Et à papa, je lui en veux pas. Et pourtant, je vous garantis que c'était un homme... C'était, entre lui et moi, c'était très, 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 très difficile. Et plusieurs années plus tard, il m'a demandé pardon à sa manière. Il a pris ma petite fille sur ses genoux. Et puis il dit à ma petite fille, tu sais, j'ai fait beaucoup de mal à ton papa. Et j'ai tout compris. Et on est devenu une relation très, très proche. Avant, j'avais peur de mon père. Il m'impressionnait énormément et je ne pouvais pas l'approcher. Et après, c'était devenu mon petit papa. Il y avait vraiment une relation d'amour entre lui et moi. Et c'est l'œuvre de Dieu, ça. Et je me souviens, j'avais réalisé que si je suis chrétien, je ne peux pas me faire l'économie de ne pas pardonner. Dieu m'a pardonné, Dieu m'a restauré, Dieu m'a rétabli, Dieu m'a pris comme j'étais. Je ne peux pas faire l'économie de ne pas pardonner. Et c'est merveilleux, quoi. Et ça, c'est faisable par la grâce de Dieu. Donc avec mon papa, voilà. Et quand il est décédé il y a 3 ans, on en parlait tout à l'heure un petit peu avec mon épouse, il y a mon frère et mes sœurs ne sont jamais venus à son enterrement, tellement une situation de famille très difficile, donc ils ne sont pas venus à son enterrement. Bon, c'est des adultes mariés et tout, hein, mes grands-parents aussi d'ailleurs. J'étais le seul à l'enterrement de mon père, je me suis tout occupé de tout, comme je suis le fils aîné. Mon papa voulait un enterrement musulman, donc j'ai respecté ses dernières volontés, donc on a juste fait le minimum comme il voulait, voilà, son corps enveloppé d'une certaine manière, tourné vers la Mecque, ceci, cela, mais c'est tout. Hein. Et au cimetière, j'ai pris la parole et j'ai utilisé le pardon que Dieu m'avait donné. J'ai dit, écoutez, voilà, il y avait des copains à mon papa qui m'avaient connu quand on était enfant, donc des gens de mon quartier, musulmans. hein, qui connaissait notre situation de famille. Je leur ai dit, vous connaissez ce que j'ai vécu avec mon père, le conflit qu'il y a eu entre nous. Mais mon père et moi, on s'est réconciliés il y a longtemps. J'ai dit, vous savez, si on s'est réconciliés, je me suis réconcilié avec mon père, c'est faisable. J'ai dit, Dieu, qui est un père, s'est réconcilié avec nous, les humains, en envoyant son fils Jésus. Et j'ai pu prêcher l'évangile à des musulmans dans un cimetière. Et c'est vraiment, c'est la grâce de Dieu, quoi. C'est formidable, quoi. Voilà. Donc on peut dire que les addictions, toutes ces choses-là, ce n'est pas un problème pour Dieu. Comme on a entendu tout à l'heure dans le témoignage radiophonique, je veux dire, enfin audio, la drogue, l'alcool, quoi que ce soit, toutes les addictions, le Seigneur les fait sauter. Il suffit de dire simplement, Seigneur, moi j'en veux plus. Maintenant, toi, fais-le. Et je crois que, voilà. Après, on me dira, oui, mais les toxicomanes, c'est des malades. Après, bon, ce qu'il faut savoir aussi, j'étais éducateur pendant des années. Je me suis dit, maintenant, je m'en suis sorti. Quand j'étais à Bethléem, au bout d'un moment, j'ai aidé à Bethléem. Hein, j'ai aidé Jean-Régis Evelyne dans le travail qu'il faisait à Bethléem, parce que je dis, maintenant, moi, je suis sorti d'affaires, je peux apporter à d'autres. Et je crois que ça rejoint à l'évangile. Je suis sauvé, j'apporte le salut aux autres. Bon, moi, c'était sur un plan, l'annonce de la parole de Dieu, mais sur un plan aussi social, je veux dire, apporter mon aide aux gens. Et le Seigneur m'a ouvert après par la suite, grâce à mon travail que j'ai pu faire bénévolement avec Jean-Régis, on a pu travailler un peu ensemble. Ça m'a ouvert des portes après pour entrer dans le domaine du social. Donc j'ai pu travailler dans des centres d'hébergement, donc subventionnés par l'État. Mais et, Seigneur, ce qui a été formidable avec Dieu, j'ai toujours travaillé dans des œuvres chrétiennes. C'est merveilleux. J'ai postulé partout, on m'a jamais embauché. J'ai travaillé que chez des chrétiens. Donc en région parisienne, bon peut-être vous connaissez peut-être ici Bethel Tourcoing. Hein. Je travaillais au foyer Arc-en-Ciel, c'était là que j'ai travaillé pendant des années à Dunkerque. Que le docteur Bernard avait démarré. Donc, je suis toujours très dans un contexte avec des frères chrétiens. Et ça me permettait toujours, donc, de pouvoir communiquer ce que Dieu m'avait donné à travers l'Évangile et de montrer aussi l'espoir, l'espérance, hein, comme on a parlé ce matin un petit peu à l'église, l'espérance que j'étais derrière un bureau, maintenant j'étais l'éducateur. Donc, pour les gens, ça y est, toi, tu n'as jamais eu de problème, toi. C'est ce qu'on me disait. Hein. Alors, je disais, je te raconte ma vie, mon gars, tu pleures, je faisais. Non, mais voilà. Mais montrer que, voilà, tu sais, si je suis derrière un bureau, c'est par la grâce de Dieu. Parce que je ne savais pas lire plus que toi, je ne savais rien du tout. J'ai pu reprendre des études universitaires, j'ai pu faire pas mal de choses. Le Seigneur m'a ouvert vraiment, vraiment, c'est vraiment une grâce de Dieu, quoi. Vraiment, au début, je lisais la Bible, honnêtement, je ne comprenais pas la moitié des mots. Maintenant, je m'éclate en faisant l'étude de la Bible et tout. Et puis, j'aime bien étudier, et puis voilà, quoi. Voilà. Ça m'a permis que je puisse maintenant être un responsable dans une communauté. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je suis absolument pour rien. C'est ça qui est merveilleux, quoi. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci à Dieu, merci Seigneur pour tout ça. Aujourd'hui, je suis avec mon épouse. On a une vie de famille heureuse. Il nous reste une fille à la maison qui a 16 ans. Voilà, c'est toute notre joie. Je ne dors plus dehors, je mange à ma faim et je peux aider les autres. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant, un petit peu. Enfin, je raconte ma vie. Hein. Voilà,
vous ne pouvez pas vous taire avec ce que vous avez ressenti.
Exactement, on ne peut pas se taire. Ouais.
Vous êtes obligé de le crier. Est-ce qu'on ne peut pas se taire. C'est impossible.
La femme qui est toi maintenant, c'est l'ancienne qui était avec
Non, elle est partie.
Ah ouais.
Elle a rien voulu savoir, elle a trop souffert avec moi. Et je la comprends. Je n'en veux pas, tu sais. Je n'en veux vraiment pas. Et je sais qu'elle a souffert énormément à cause de mon péché. Mais maintenant, les choses sont ce qu'elles sont. Seigneur m'a resté. Comment? Mon premier? Oui, Paul, bah, il est marié, il habite dans la région, là, et puis, il mène une vie de famille normale, quoi. Bah, il n'a pas la grâce d'être attaché au Seigneur, c'est dommage. Mais bon. Sinon, avec cette dame-là, j'ai eu d'autres enfants. On a eu trois enfants ensemble, donc deux qui sont pas au Seigneur, mais la troisième, la plus jeune, elle est au Seigneur et son mari est pasteur dans le sud de la France, donc ils sont à la charge d'une communauté ensemble.
Vous avez crié votre
Ouais.
comment dire, découragement
C'est ça.
parce que vous l'avez interpellé plusieurs fois,
Ouais.
mais comme vous avez bien expliqué, ben je demande ceci, je n'ai pas encore fait,
Ouais.
hop, au suivant. Et là, vous étiez vraiment dans la détresse.
C'est ça.
Vous avez crié à
Dieu. Il y a une promesse dans la parole qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend.
L'Éternel entend.
Et c'est vrai.
La détresse.
Pour ça, je crois que la vie avec Dieu, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la théorie.
Non, c'est pas de la religion.
C'est une réalité qu'on vit au quotidien. Quoi, je veux dire.
Inconcevable.
Ah,
c'est inconcevable. On ne peut que le discerner.
Ouais.
Celui qui vient me dire, moi, je sais ce que pense Dieu, il est fou.
Ah oui.
Il ne pourra pas. Non, il faut l'aimer d'abord, lui faire une confiance totale à Dieu.
C'est ça, voilà. Ouais, c'est... Donc voilà, et j'ai, tout en étant éducateur, j'ai pu voir des gens s'en sortir. Malheureusement, tout le monde ne s'en sortait pas avec la grâce de Dieu. C'est dommage, quoi, mais voilà. Donc, récemment, je vais en parler un petit peu, vous connaissez peut-être à Calais, enfin, à Calais, ce qui se passait avec les migrants. J'ai eu la possibilité de pouvoir y aller, de voir dans quel état ça se passait, ils vivaient. Alors, bien sûr, il y a les médias, il y a tout ça, mais il y a une réalité au quotidien aussi. Bon, c'est vrai que j'y suis allé pour essayer de témoigner de l'Évangile, mais finalement, j'ai jamais fait mon prédicateur. J'y suis allé, je me suis fait des copains sur place. Voilà, c'est ça, ils viennent en France parce que voilà.
Et,
voilà. Et donc, on a été avec quelques amis de notre église où on était, quoi, spontanément. Donc, on s'est fait des amis, on a discuté avec les uns et les autres. Et puis on était vraiment acceptés. Bon, ils savaient qu'on était des chrétiens. Bon, il y a beaucoup de musulmans, et voire des intégristes. Il y avait des mosquées avec des drapeaux islamistes, l'islam et tout ça. Bon, ça on le voit pas dans les médias, mais il y a une réalité quand même. Il y avait une réalité parce que c'est fermé. Et ce qui a touché un musulman, un chef de tribu a dit, il voulait connaître Jésus parce qu'il a vu que les chrétiens l'aimaient. Il dit, vous m'aimez. Il dit, vous êtes venus, il dit, les musulmans ne sont pas venus nous aider, et pourtant il y avait les mosquées à côté, personne ne nous a aidés, mais vous ne nous connaissez pas, vous êtes venus nous aider, nous apporter à manger, on a mangé, on discutait avec eux, enfin bref, on a fait des relations d'amitié, de camaraderie, et ça l'a touché énormément. Donc il a décidé de rester en France, là avec les bus qui ont dispatché un peu les migrants sur toute la France. En ce moment il est à Toulon, et régulièrement il téléphone... à une amie qui, elle parle très bien, parce qu'il parle arabe, elle parle bien l'arabe, il veut connaître l'amour de Dieu, parce qu'il a vu à travers les chrétiens l'amour de Dieu se manifester. Pas que moi je suis meilleur qu'un autre, c'est pas vrai, c'est faux, mais on y a été, et voilà, il a vu que le Seigneur les aimait, et je crois que c'est ça, donc justement, aujourd'hui c'est en plus publicité pour Portes Ouvertes, c'est journée de la persécution. Et je crois que les musulmans ont besoin de voir des chrétiens, s'ils ont besoin de voir ça, mais des gens qui les aiment, qui manifestent cet amour que le Seigneur nous a donné à chacun. Et je crois que c'est... Et notre victoire, elle sera là, quoi. C'est là qu'on va aller voir, se tourner vers le Seigneur, c'est ce qui se passe, quoi. Donc voilà, vous voyez, d'un clochard, un drogué, ce que le Seigneur peut faire. Il y a eu la drogue, c'est vrai, les gros trucs, mais il y a d'autres choses dans ma vie que le Seigneur a... Après, le Seigneur a affiné les choses, hein. Attention, il y a la drogue, ces choses, ça c'est vite parti, on peut dire c'est miraculeux. Mais le grand miracle, c'est une transformation de cœur, chaque jour dans la vie. J'ai besoin de Dieu chaque jour, parce que chaque jour, le Seigneur me montre régulièrement, il dit, là Alex, ça va pas, hein. Ta vie elle est pas claire, là, il y a encore ça, il y a ça à nettoyer, tu ressembles pas encore à mon fils, c'est vrai. Donc il y a ça et ça et ça, et donc c'est chaque jour. Et entre nous, c'est pas compliqué. C'est une marche, c'est une espèce de réflexe, c'est dire, Seigneur, ok, je suis d'accord avec toi, ça va pas, je te le donne. Parce que le Seigneur Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Mon image, c'est qu'il a ouvert les bras, il dit, donne-moi ton péché, et moi je te donne ma vie. Voilà, c'est pour moi l'évangile se résume un peu à ça. Merci de m'avoir entendu.